On est de retour à Bonsoir les sportifs. Ce sera pas long, on va se jaser, mesdames et messieurs. Merci de votre patience, mais il y a tellement de sujets que je voulais parler avec, avec de mes collaborateurs et de mes amis. Alex Agostino est avec nous. Salut, Alex.
Salut, Derek.
Alex, je sais pas si t'as entendu Louis-Philippe Pelletier qui est en studio avec nous. T'as joué dans la Ligue Montréal, la Ligue de baseball junior élite du Québec. T'as coaché la Ligue de baseball junior élite du Québec. Tu couvres la Ligue de baseball junior élite du Québec. 515 de moyenne, c'est incroyable.
Ben écoute, n'importe quel niveau, que tu sois Atom, Midget A, Midget B, junior élite, la meilleure ligue amateur... 21, 22 ans et moins au Québec. Pas surpris que c'est Louis-Philippe, parce que ça fait longtemps que je vois évoluer Louis-Philippe lorsqu'il avait 15-16 ans au Midget 3, les ailes du Québec, l'équipe nationale. C'était tout un cogneur. Je sais que moi et mon patron à l'époque, Eric Volant, un ancien des majeurs, on l'avait sur notre liste de repêchage. Il est allé au collège américain jouer avec les Astros de Houston. C'est un gars qui a juste duré 2 ans dans les mineurs, mais je pense pas que c'était le manque de talent, c'était plutôt qu'il avait le goût d'être de retour chez lui, puis poursuivre ses études, puis faire autre chose de sa vie, mais probablement un des meilleurs frappeurs purs qu'on a connu au Québec, puis comme tu as mentionné, moi c'était l'autre ligue, ça s'appelait dans le temps junior majeur du Québec, ouais. J'en ai vu des bons joueurs, des athlètes, t'sais, j'ai joué contre Mark Griffin, j'ai vu évoluer des toutes sortes de joueurs dans les 30 dernières années, mais de faire ce qu'il a fait, c'est très bon. Puis tu sais quoi? C'est de la belle publicité pour la Ligue. Oui, pour Louis-Philippe, parce que c'est un jeune homme très le fun, très respectueux, un bon kid, un bon coéquipier, un gars qui a fait tous les différents calibres de baseball au Québec. Mais ça donne un peu d'envergure à la Ligue, puis c'est le fun de voir que le monde en parle. Puis je pense que je te remercie pour tous les amateurs de baseball d'en parler, d'avoir parlé au jeune homme, de montrer aux gens que oui, c'est le fun, on a du baseball à la TV, on a du baseball partout, mais il y a quand même des jeunes qui se défoncent à tous les jours sur les terrains un peu partout aux quatre coins du Québec. Ah. Louis-Philippe Pelletier en est un, puis pas mal fier de lui, pas mal content pour lui.
Ben oui, mais t'as pas besoin de me remercier, Alex, tu sais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Écoute, il a parlé de quelque chose d'intéressant, je te pose la question, puis je sais que tu couvres pas les activités de la CANAM, mais 515 dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, là, ça se traduit comment, ça, avec les capitales dans la Ligue CANAM?
Écoute, c'est très dur à traduire, sauf que je sais que ce gars-là a le calibre, a le bâton pour jouer à un autre niveau. Il l'a prouvé, il a été bon au collège. Il a joué avec les Astros dans les ligues mineures. Ça n'a pas été peut-être convaincant au début parce que peut-être que mentalement, il n'était pas 100% investi au niveau des mineurs. C'est pas toujours le fun.
Ah, c'est pas fait pour tout le monde. Ben, je peux vous le dire.
C'est pas juste ça, c'est que des fois, le timing est peut-être pas bon. Je sais pas si dans 2 ans, il se ramasse à Trois-Rivières à Québec, puis il frappe 360, 380.
Ouais.
Je te lance un nom, Daniel Nava,
ouais,
qui a eu une carrière du baseball majeur, pas pire. Ouais. Il a joué 3-4 ans dans le baseball affilié avant d'avoir sa première chance, puis d'être prêt physiquement et mentalement. Puis je pense qu'il est arrivé dans le baseball affilié à 26-27 ans avant de signer un contrat puis de se ramasser dans les ligues majeures. Mais c'est sûr que moi, en connaissant de la façon que ce gars-là, j'ai vu évoluer dernière année, c'est de trouver une position qui a de l'allure pour lui, que ce soit au deuxième but, champ gauche, frappeur désigné. Il avait de la bonne vitesse dans le temps. Ce que j'aime dans la Ligue junior élite, c'est que ça frappe avec le bâton de bois. Alors, il n'arrive pas au prochain niveau si jamais ça tente d'essayer. Puis les équipes, si je suis un des deux équipes québécoises, je regarde ça, je dis, hey, on a-tu de quoi à perdre?
Ben non, oui, mais zéro. Non, faut du la
même. Donnons-y une chance, essayons de mettre ce gars-là au prochain niveau. Puis si Louis-Philippe est prêt à vouloir tenter sa chance-là, ben moi, je pense que c'est un gars qui peut frapper 300 dans n'importe quelle ligue. Maintenant, c'est de savoir la puissance, ça va-tu se traduire? Veux pas, les lanceurs sont plus aguerris. T'as des gars de 25, 26. 27 ans. La Ligue CANAM, ce qui est intéressant, c'est que je ne dirais pas que c'est plus fort que le baseball affilié, mais il y a des soirs, dépendamment des lanceurs, ça l'est, parce que tu as des gars, des vétérans qui ont évolué, que ce soit au niveau 2A, 3A, puis qui sont capables de décortiquer un frappeur, puis de le détimer, si on peut dire, de le garder hors ballon. Mais c'est un gars, je pense que ça peut être facilement un gars qui frappe en haut de 300. Savoir que la puissance se traduit au prochain niveau.
J'espère que l'an prochain, il sera avec Trois-Rivières ou avec Québec ou même avec Ottawa, mais qu'il ait la chance de jouer et de se mesurer à ça. J'aimerais ça parce que là, on a quelqu'un qui vient d'établir un record dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, 515. ça serait tellement, tellement intéressant de voir. Parce que ça pourrait aussi nous donner vraiment une idée de la différence entre les deux calibres. Moi, j'ai toujours... je pense que j'ai déjà parlé de ça avec toi, mais j'ai toujours mentionné, moi, ce serait le fun de voir notre champion du Québec de la Ligue CANAM, là, soit Trois-Rivières ou soit Québec, affronter le champion de la Ligue de baseball junior élite du Québec pour 2-3 matchs à la fin de l'année. Là, une petite série mondiale du Québec, là. J'ai toujours... Juste pour le fun, j'aurais aimé voir ça. Tu sais? Fait que ça serait le fun de voir un gars là-dedans.
Intéressant en fin de saison. Je sais que là, la CANAM, ils ont 105 parties. Si tu mets les séries, c'est peut-être pas sûr qu'ils auraient le goût de faire une série de même. Mais évidemment, pour le baseball au Québec...
Ben, un match. Peut-être t'as raison, parce que les lanceurs, ils n'auraient peut-être pas assez de lanceurs pour une équipe de la Ligue junior du Québec.
J'aime l'idée, Derek, mais un exemple, une équipe d'étoiles de 22 ans, motivée à la fin de leur carrière un petit peu... ça pourrait être quelque chose au lieu de l'équipe championne.
Ah, c'est bon, ça aussi.
L'équipe championne aussi, peut-être qu'il manquerait de profondeur au niveau des lanceurs, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis je sais qu'une chose, la Ligue CANAM, avec les organisations qui sont là, ils sont toujours ouverts à des idées parce que les Cubains ont joué, les Dominicains, tu as eu des équipes asiatiques qui ont joué. Je ne sais pas si tu rajoutes une série de cette façon-là, que ce soit le milieu de l'année, fin d'année,
La coupe Alex Agostino. Moi, j'aime ça, la coupe Alex Agostino. Un match.
La coupe, allons-y avec la coupe des Québécois. Là, la coupe au coin Raymond Boucher, les trois anciens expôtiens.
Je veux te parler de Bartolo Colon, 45 ans. Oui. Il est devenu le lanceur latino-américain le plus victorieux des ligues majeures. Il est rendu à 246 victoires. Il dépasse El Presidente, l'ancien lanceur des Expos, Denis Martinez. C'est quoi sa recette, lui, à 45 ans?
Ben écoute, sa recette, puis il ne faut pas oublier qu'il a été suspendu pour violation là, des règles des produits dopants à un certain moment de sa carrière. Mais c'est simple, il a un bras de caoutchouc, il vit sur une balle rapide qui bouge peut-être à 80% du temps. Puis je pense qu'il s'amuse encore énormément. Puis vu que le baseball aujourd'hui s'en va vers des lanceurs qui lancent toutes 93 à 97, une manche ou deux manches, quand t'as un lanceur qui est un peu différent, il peut à tous les 5 jours, 6 jours, te donner des départs. C'est sûr que ses statistiques cette année, c'est pas pour une équipe championne pour qui il évolue, puis je pense pas qu'il serait un atout, un exemple pour les Red Sox de Boston ou les Yankees de New York, mais une fois à tous les 5 jours, il est capable de te donner 5-6 manches, puis quand la balle danse et elle bouge bien, on dirait qu'il est capable encore de déstabiliser certains frappeurs. Là, il veut battre le record des manches lancées, si je ne me trompe pas, de Maréchal. Combien d'équipes qui restent dans le baseball majeur qui ont besoin de Bartolo Colon? J'en doute. C'est tout un exploit parce qu'il y a quand même plusieurs victoires après l'âge de 40 ans. Puis des noms comme Maréchal, puis Denis Martinez, ce n'est pas des petits noms au niveau du baseball là, en Amérique latine. Mais c'est quand même un exploit hors du commun parce qu'on sait que c'est quoi le dernier expo qui est encore actif dans le baseball majeur.
Il n'y a personne qui aurait deviné ça, là.
Non, il n'y a personne, spécialement après l'échange, qui avait envoyé 3 étoiles en Cliff Lee, Brandon Phillips et Grady Sizemore à Cleveland pour Bartolo, qui a quand même eu des bons moments à Montréal. Si on se rappelle, si je ne me trompe pas, il y avait 8 ou 10 victoires.
Oui, tu as raison.
Il a bien lancé avant de continuer sa carrière. Il s'est promené. Il a eu sa suspension. Il l'a purgé. Puis depuis ce temps-là, c'est pas qu'il est revenu à lancer 95, là, c'est 87-90. Puis malgré sa corpulence, il te donne toujours des jeux défensifs dignes de ESPN, puis les meilleurs jeux de la semaine. Tu vois le gros sourire, on le surnomme Big Sexy, pas pour rien. C'est quand même étonnant. Ça démontre que c'est encore un bras de caoutchouc qui est capable de te faire run, tu peux peut-être lancer. On verra bien s'il y a une équipe qui va encore lui donner une chance l'an prochain. D'après moi, il signe un contrat des ligues mineures quelque part, avec une invitation au camp des majeurs, puis s'il fait bien, ben on verra.
246 victoires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de sa place au temple de la renommée, puis j'ai de la misère. C'est pas à cause qu'il est là tellement longtemps que ça le place au temple de la renommée, mais là, c'est le lanceur latino-américain qui a le plus de victoires. Regarde, on va être obligé de... Il est obligé d'être dans la conversation, là.
Il va y avoir des discussions, des conversations, mais si les journalistes sont conséquents, si Barry Bonds puis Roger Clemens sont pas là, Bartolo Colon a quand même été suspendu. Là, il faut pas.
C'est vrai. Non, t'as raison.
On l'aime bien. on l'aime bien. Pourquoi que lui passerait avant? Moi, ça me surprendrait. Il sera dans la discussion. Mais moi, je pense pas qu'on, dans l'ère qu'on est présentement, à part qu'il y ait du grand changement, puis qu'on voit un Bonds ou un Clemens adhérer au Temple de la Renommée dans les prochaines années. Là, peut-être, mais pour l'instant, je pense pas, même si c'est quand même quelque chose de très, très fort qu'il a accompli en étant le numéro un latino avec le nombre de victoires dans le baseball majeur.
T'as raison. Hey, écoute, il faut que je te parle de Jason Worth. Jason Worth, qui n'est pas allé de la main morte avec les médias à Philadelphie dans une entrevue. Il mentionne que les nerds du baseball sont en train de tuer la game. Il fait référence, évidemment, à toutes les statistiques avancées, mais il écoute, il a pas choisi ses mots, là, en parlant des gars dans les bureaux, les nerds, des gars qui ont jamais joué au baseball, qui font juste peser sur des boutons ou d'une calculatrice ou peu importe, c'est eux autres qui gèrent le baseball, mais c'est des propos quand même assez... c'est des propos assez puissants qui lui, il trouve sont en train de tuer le baseball.
Ben écoute, c'est un joueur qui a joué longtemps, c'est un joueur de la vieille garde, c'est un gars qui a jamais eu sa langue dans sa poche, qui a eu une belle carrière avec les Phillies et ensuite avec les Nationals. Puis moi, je pense qu'il y a une partie, en partie raison. Je dirais pas à 100% parce qu'il évolue pas un exemple dans l'administration d'une équipe, il est pas là. Il y a une certaine valeur pour ces gens-là, puis ils sont pas tous des super nerds. C'est sûr que c'est des gars de chiffres. La plupart, comme tu as mentionné, ont soit joué au niveau collégial, ils n'étaient pas assez bons pour poursuivre, mais c'est des gars qui adoraient le baseball. Puis comment je vais travailler dans le baseball professionnel, vu que je ne jouerai pas? Puis les jobs de dépisteur, ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop dur, il y a beaucoup d'heures à l'extérieur. Mais on va travailler pour pas grand-chose. On va être des stagiaires pour un an ou deux. Quand tu es stagiaire, tu n'es pas sur la route. Tu es dans le bureau, tu es à côté du propriétaire, tu es à côté du DG, puis tu arrives avec des projets, tu arrives avec des situations. Voici comment on peut être meilleur. L'année d'après, tu es engagé comme une personne qui travaille dans le département des analytics, les IT qu'on appelle. Et évidemment, ça fait des games plus longues, ça fait beaucoup de choses où l'aspect humain est peut-être laissé de côté des fois, puis tu as beaucoup moins d'échanges ou beaucoup moins de gestes par les dirigeants qui sont sur le flair ou sur l'instinct, et plutôt sur à chaque fois que tu prends une décision de signer un agent libre, d'échanger un joueur, tout est calculé à la lettre, puis des fois ça va bien, d'autres fois ben ça marche pas bien. Alors moi dans les propos de Worth, Derek, il faut qu'on trouve un juste milieu, parce qu'on veut pas que les parties se rendent à 4h15, puis on utilise 12 lanceurs sur chaque barre parce qu'on a besoin d'un match-up en 6e manche, un autre en 8e, un autre en 9e. Mais quand tu engages, la façon que les DG sont engagés aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Brian Sabian, d'Alex Anthopoulos qui demeurent en poste. C'est beaucoup des jeunes DG qui sont plus souvent qu'autrement plus jeunes que leurs gérants ou plus jeunes ou à même âge que leurs joueurs. Ben eux, ils disent aux propriétaires, on va dépenser de même, on va gagner de même, on a ce plan-là. Puis quand t'as les Astros qui gagnent, puis il y a des équipes qui font bien, ben regardez, ils ont fait ça, nous autres, on va faire la même chose. Ce que les gens oublient des fois avec les Astros, si je me permets, ils ont gagné avec des bons joueurs derrière. Ouais. Pas juste avec. Elle était mauvaise pendant toutes ces années-là. Carlos Correa, premier overall. Alex Bregman, deuxième overall. George Springer dans les 10 premiers. Tu vas chercher par la suite un Verlander parce que tu as l'argent et tu as une bonne équipe. Tu sais, c'est des bons joueurs gagnent. C'est aussi simple que ça. Avec une administration qui a une idée de qu'est-ce qu'ils font, comment qu'on fait les échanges à la fin, puis dans le développement. Si tu développes pas de joueurs, si les Astros n'avaient pas Altuve, Springer, Correa et Bregman, ben, ils auraient peut-être pas rajouté McCann, Verlander puis les gars à la dernière seconde. Et c'est pour ça que des fois, je trouve que c'est un petit peu deux faces de la façon que certaines équipes se disent, ah, nous autres, on est très enclin au niveau analytique. Oui, tu peux l'être dans le bureau, mais sans les bons joueurs, tout ce que tu essaies de faire, ça marche pas.
Écoute, moi, te dire, là, si tu l'es pas, là, t'es en retard. Ouais. Parce que les autres équipes, il y a un avantage. Je suis obligé de dire, il y a un avantage. Lorsque tu as de l'information, de tendance, c'est toujours une question de probabilité. C'est comme le joueur de poker, c'est comme le joueur de blackjack, c'est comme le... Ouais. C'est toujours des affaires de probabilité. Puis le baseball, mais c'est aussi ça. Alors, il y a un mélange des deux. Mais c'est ça, je voulais que tu commentes sur les propos de Jason Worth.
Ben, 39 ans. On était dans les derniers à avancer. Puis avec l'avenue de Matt Klentak, que moi, je considère pas comme un super nerd, notre DG, là. Je trouve que c'est un gars le fun, tu prends une bière avec, il discute de tout, de baseball, il pense pas qu'il connaît tout. Mais on n'avait pas de département analytique quand il est arrivé. Puis depuis, ben, on est rendu avec une douzaine d'un bureau qui travaillent au niveau des mineurs et des majeurs. Ce qu'on a fait bien, par exemple, on a Sam Fuld, l'ancien joueur des majeurs, qui a pris sa retraite en 2017, qui travaille comme entraîneur des majeurs. Et lui, il est le lien entre le bureau-chef, l'administration et les joueurs. Puis tout ce que le département analytique demande, qu'est-ce qui est bon, c'est lui qui l'amène aux joueurs. Alors, un gars qui a joué 10 ans dans les majeurs, qui est respecté, qui est allé à l'Université Stanford, qui a été un choix, je pense, des Cubs de Chicago, mais s'est promené, c'est lui qui est dans la chambre avec les joueurs. C'est un ancien joueur qui lance encore la pratique au bâton, qui s'entraîne avec les joueurs, puis c'est lui qui amène à Rice Hoskins. Garde, c'est ces tirs-là qu'on veut que tu frappes. En défensif, qui va parler à César Hernandez, tel frappeur, on se place à telle place. Là, ça vient d'un un peu un des leurs. Quand tu as un mélange de même, je pense que ça peut marcher.
Alex, génial, toujours un plaisir de te parler. Hey, je te souhaite bonnes vacances, mon chum. J'espère que tu amènes ton gars en Italie. On se parle bientôt.
Oui, on s'amuse.
All right, salut, bye-bye. On fait une courte pause. On a de la belle visite. Benoît Hurotte avec nous après ces messages.